Piscine, sémantique, cravate,
œil,
chaussure,
interprétation,
sagesse, nu,
imperception,
colonne,
écouteur,
chaussette,
babiole,
radio,
attentat,
aléatoire,
thérapie,
pouvoir,
voyage,
ampoule,
mayonnaise,
piscine,
dôme,
convivialité, jante,
chaussure.
Bonjour, ça va ?
Et l'émission sera présentée par...
Ben, c'est moi, là.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Panique, sur le 105.4 FM. Ah, la toute jeune émission, encore innocente et naïve, pure et idéaliste, l'émission Bonjour, ça va. Alors, Bonjour, ça va, c'est quoi ? C'est une émission de la rédaction qui est basée sur l'interprétation. De 19h à 20h, 20h30, l'équipe de BCV, c'est Bonjour, ça va, vous propose d'interpréter un mot ayant été tiré au hasard l'émission précédente. Chaque membre de l'équipe va venir vous expliquer, vous décrire, vous narrer son interprétation très personnelle du mot du mois. Durant l'émission, vous écouterez également des musiques tirées au hasard, en lien évidemment avec le mot de l'émission. À la fin de notre déambulation auditive, nous tirerons en direct le prochain mot qui formera l'émission de mai. Comme c'est excitant. Vous l'aurez compris, cette émission va vous emmener aux quatre coins des imaginaires brumeux d'individus atypiques et plutôt très séduisants. Et avec nous aujourd'hui, nous avons justement la fine équipe. Et pour commencer, vous la connaissez, celle qui n'hésite pas à mettre la main à la pâte pour rouler les gens dans la farine afin de gagner sa croûte, nous avons Adeline avec nous. Bonjour Adeline.
Yeah, salut tout le monde.
Ensuite, nous avons l'homme qui a un mal de chien à donner sa langue au chat quand il a la gueule de bois. C'est le seul homme à rester de marbre avec une poigne de fer. Arnaud est présent aussi. Bravo Arnaud.
Yeah. Hola, ¿qué tal?
C'est la seule femme adorant tellement la viande qu'elle pourrait poser un lapin par un froid de canard. Élise est présente ce soir, bien entendu.
Salut.
Bravo.
Tu me connais.
Bravo. Et bien sûr, pour finir, le seul homme qui n'a pas besoin d'équipe technique pour se faire des films, Arthur. Bravo Arthur.
Coucou.
Alors, avant de commencer, vous êtes déjà content de cette introduction? J'ai galéré avant de faire ça.
Mais c'est magnifique, on peut arrêter.
C'est trop
merci,
beau.
Merci. Alors, avant de commencer, cette émission est un peu particulière, hein, vous le remarquez directement. Distanciation sociale oblige, nous sommes actuellement séparés physiquement, chacun dans notre maison quatre façades avec jardin, connectés ensemble grâce au programme Mumble, qui nous permet d'être en direct sur les ondes de Radio Panique. Petit tour de table comme ça, vite fait, hein. Dites-nous où vous êtes, c'est quoi votre environnement? On va commencer par Adeline, vite fait, Adeline.
Moi je suis dans ma coloc, on habite à 7, et j'espère qu'ils m'écoutent, parce que je crois qu'ils n'écoutent jamais, et du coup là je leur dis, ouais les gars, pas d'excuses, 105.4 FM, c'est parti.
C'est triste et en même temps beau ce que tu racontes, c'est beau. Arnaud, où es-tu là comme ça?
Écoute, je suis chez moi sur mon salon et je fais un big up à Mariam qui est juste en face de moi et qui m'écoute et en direct sur 105.4. Et donc voilà, si un jour j'avais su que je pouvais vraiment faire l'émission depuis mon salon, je pense que c'est à refaire, quoi, pourquoi pas. Le jour où t'as un peu la flemme, tu dis allez, ça va, je suis dans mon salon, tranquille.
Arthur, où es-tu en ce moment? Es-tu nu? Es-tu pas nu?
Je suis dans une pièce très blanche et je vous confirme que ma féline écoute l'émission en faisant sa toilette.
Ah, génial, un gros big up à la féline et à Mariam. Élise, où es-tu en ce moment?
Là, je suis dans une salle de bain pour être au calme, mais je suis chez ma sœur pour tourner en France. Et du coup, je passe un petit coucou aussi à ma famille qui m'écoute pour une fois aussi. Non, ils ne m'écoutent pas depuis les toilettes.
Et Radio Panique à l'international, évidemment, super.
Et la question pour toi, François, où es-tu en ce moment même?
Je suis assis seul dans ma chambre sur une chaise avec une canette de masse et c'est bizarre comme sentiment, mais c'est plutôt agréable.
Mais t'es pas dans ta voiture?
Non, pas là, ici, pas ici, quoi.
Et quoi, alors, tu fais une détox voiture? Comment tu te sens de pas conduire?
J'ai acheté un jeu virtuel qui me permet de conduire n'importe quel Citroën et Volvo, ce qui me fait vraiment plaisir.
Ouf.
Merci à tous. Allez, bon, sans plus
j'ai mis le micro seulement pour rigoler, hein, François.
Merci beaucoup. Putain, ça va être comme ça tout le long de l'émission. Du coup, bienvenue, restez connectés. Sans plus attendre, on va commencer évidemment cette émission. Ce mois-ci, le mot tiré au hasard est le mot Bar. Je le rappelle, chaque chroniqueur, chaque personne qui est ici, va l'interpréter selon son envie, évidemment, sous forme de chronique. Et on va commencer directement avec notre chère Adeline, qui va nous faire un petit jeu d'expression sur le mot bar, sous forme d'improvisation. Dis-nous en plus, Adeline.
Mais avec plaisir, je vous raconte tout de suite. Alors, quand le mot bar est sorti du chapeau le mois dernier, la première chose qui a popé dans ma tête, c'est la barre de fer à tout faire. Si vous ne savez pas ce dont il s'agit, vous êtes probablement trop vieux ou trop jeune pour savoir, mais je vous conseillerais bien d'aller regarder ce célèbre sketch de Jamel Debbouze et Gad Elmaleh. Et en réalité, je ne vous le conseille pas vraiment parce que je trouve qu'il a plutôt mal vieilli. Désolée. Alors, du coup... ouais, oups. Alors du coup, à défaut de pouvoir slash vouloir refaire ce sketch en version audio, j'ai creusé un peu plus loin dans ce que pouvait m'inspirer ce mot « bar ». Et je me suis aperçue qu'il y avait pas mal d'expressions de notre noble langue française qui contenaient le mot « bar ». De l'or en barre, tenir la barre, barrer la route, passer à la barre, être mal barré, placer la barre haut, se taper des barres, dépasser la barre de, sous la barre de, se barrer, code barre, baramine, point barre, bartaba, baraki, baratin, babar. Bref.
Ah oui, oui,
oui, il y en a plein. Bref, une multitude d'expressions qui garnissent notre langue, mais pourtant, on ne sait pas toujours d'où elles viennent. Alors, je vous propose donc un petit jeu. Nous allons inventer, dans l'improvisation spontanée la plus totale, les origines de certaines de ces expressions. Et oulala. Alors du coup, pour pas que ce soit trop cafouillis, je vais à chaque fois demander à l'un d'entre vous ou l'une de me donner l'origine inventée en commençant par le dialogue suivant. Donc là, c'est un exemple. Tiens, Arthur, tu sais pourquoi on dit telle expression? Et là, Arthur de me répondre. Mais oui, bien sûr.
Mais oui, bien sûr.
Et il commencera son explication. Est-ce que vous avez bien compris?
Mais oui, bien sûr.
Oui,
oui,
bien
excellent.
Sûr.
Alors du coup, bah, on va commencer par Arthur qui. Je lui prête des talents d'improvisation.
Mais oui, bien sûr.
Oui, yes.
Oui.
Du coup, c'est préenregistré, hein, oui, bien sûr.
Mais oui, bien sûr.
Mais oui, bien sûr. Ok, alors Arthur, est-ce que tu es prêt?
Mais oui, bien sûr.
Tiens, Arthur, est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'on dit se taper des barres?
Se taper des barres, oui. C'est né à l'époque du Marquis de Sade. Et en fait, c'était le concept de en fait, Marquis de Sade écrivait des romans très 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 épais pour qu'ils soient vraiment voilà bien volumineux et hauts, et pour qu'on puisse après plutôt que de les lire parce que tout le monde ne les lisait pas, et ben plutôt se taper dessus avec. Ils trouvaient ça très drôle. Donc c'est là devient se taper des barres.
Très joli. Mais moi tu m'as eu à partir du Marquis de Sabre. C'est bon.
Trop bien, j'adore. Excellent. Est-ce que les autres voulaient rajouter quelque chose par rapport à cette explication, ou bien ça vous semble tout à fait plausible?
Elle était très claire.
Génial. Bah, du coup, si un jour on crée un dictionnaire, on la met dedans.
Pour moi,
oui, vas-y.
C'était... j'avais l'impression que c'était plus un truc comme être zoophile, pédophile, etc. Et c'était des personnes qui avaient une attirance sexuelle pour les bars, mais chacun son interprétation.
Les poissons, tu veux dire.
Par exemple, ou les bars physiques, les bars d'ambiance.
D'où la pole dance.
Oui.
Ok, exactement. On enchaîne. Alors, tiens, Arnaud. Est-ce que,
oui,
tu saurais me dire... est-ce que tu saurais me dire pourquoi est-ce qu'on dit de l'or en barre?
Ben oui, bien sûr, parce que à l'époque, lorsqu'ils creusaient pour trouver l'or, c'était en cercle. Et du coup, ils n'arrivaient pas à le faire transporter sur les charrettes. Et un jour, il y a un gars qui a dit, mais vous êtes con, pourquoi est-ce que vous ne mettez pas en barre l'une à côté de l'autre? Comme ça, vous avez beaucoup plus de place pour le mettre sur les charrettes. Et donc, ils ont dit, ah ben oui, on va mettre du coup l'or en bas.
Ah ben ouais.
Oh, c'est okay. Génial.
C'était pas
et c'était pas à ce moment-là, du coup, qu'ils ont... C'était pas des barraquis. Et à mon avis, c'est à ce moment-là qu'ils ont inventé Tetris aussi.
Ben oui, tout à fait, ouais. Exactement. Avec l'or.
Avec l'or.
C'est qui, non,
mais quel rêve. L'or, celle des barres.
Ah oui.
La nageuse.
Et sinon, il y a Allahu Akbar aussi. Mais bon.
À toi, ton tour. Alors donc, Élise, est-ce que tu es prête?
On va dire oui, bien sûr.
Tiens, Élise, Est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'on dit être mal barré ou mal barré?
Mal barré. On dit être mal barré. Alors, je suis très nulle en impro, moi. Attends, je réfléchis. Qu'est-ce que ça pourrait dire? Quand on est mal barré, c'est que, par exemple, on a mal... c'est quand on écrit et qu'on rature après parce qu'on dit que finalement, c'est nul ce qu'on a écrit. On barre. Et du coup... c'est très nul ce que je raconte, mais je pense non, que ça vient de là.
Non, c'est parfait.
C'est nickel.
Oh, vous êtes trop gentil. Du coup, voilà, on va dire que ça vient de là.
En
du
vrai,
fait de raturer et tout. Tu m'as pris de court, ouais.
Ouais. Je faisais un peu le même exercice tantôt, du coup, pour me dire, tiens, est-ce que je suis en train de les mettre dans la merde ou est-ce que ça va? Et pour être mal barre, j'avais plus ou moins la même explication. Ouais.
Ouais,
ça
parce que
être un truc en c'est lien ça. Avec ça.
Voilà, c'est bien alors.
Et alors
mais oui bien sûr minutes. C'est la dynamique oui, du relais sûr.
Non mais c'est clair.
Ok et du coup François
oui
tiens, François,
oui oui bien entendu.
Oh, punaise, il veut vraiment casser mon jeu. Tiens François, est-ce que tu
oui,
sais
bien
pourquoi
sûr.
Est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'on dit placer la barre haut?
Oui. Mais en fait, tout vient à la base d'Interville. Vous connaissez Interville quand même,
bien
rassurez-moi.
Bien sûr, ouais. Mais pour nos auditeurs, tu peux réexpliquer ce que c'est.
Ben, Interville, c'est un jeu intervillage, en fait, français, qui se fait s'affronter deux villages de France sur plusieurs épreuves dites cocasses, dont l'épreuve de la vachette, évidemment, on la connaît, et l'épreuve de la barre, d'où vient cette expression, justement. La barre qui est, en fait, c'est un petit peu l'épreuve finale, hein. Il y a deux concurrents qui s'affrontent et qui doivent, par la force de leurs bras, essayer de monter le plus haut possible avec une barre, avec des petits échelons qui sont mis. J'explique bien ou pas? Oui, j'explique bien.
C'est clair.
Mais oui, bien sûr.
Ils essayent, mais oui, bien sûr, d'arriver tout au-dessus. Et en fait, la personne qui arrive tout au-dessus avec sa barre a gagné. Et donc, placer la barre haut dans l'argot, ça veut dire tout simplement espérer gagner les prochains intervilles, si je ne me trompe pas.
Non, non, mais à mon avis, c'est ça. Mais cela dit, ton explication nous donne une information sur toi. C'est que, à mon avis, tu regardes un petit peu trop les jeux télévisés. Mais bon, cela dit, c'était vraiment nickel.
Merci beaucoup.
Et du coup, en vrai, je vous remercie. Si vous voulez, on peut en faire encore d'autres, mais j'avais choisi l'expression que je préférais. Parce que les autres, c'est un peu moins marrant, à mon
et
avis.
Et on peut en faire un pour toi, Adeline, peut-être.
Ah oui, si vous avez une expression, vous pouvez me challenger.
Bah, le premier qui trouve a gagné.
Ouais. Ouais, non.
Yes.
Attends, barbiturique, c'est pas une expression.
Ok, moi j'avais. Merde, j'ai quoi? Il y a tenir la barre là-bas, mais il me semble qu'on va en parler tantôt.
Attends, tenir la barre, oui.
Mais je peux vous expliquer si vous voulez d'où ça vient, tenir la barre.
Ah oui.
Alors, très bien.
T'as vu l'excitation quand même. Hein. Et c'est facile de faire une émission comme ça en fait. Hein.
Oui, easy. Alors, c'est bien parce que comme ça, en même temps, vous me laissez un peu de temps pour réfléchir. Tenir la barre, d'où ça vient? C'est très simple. On croit que c'est une vieille expression, mais c'est pas du tout ça. C'est vraiment une expression très très récente. Enfin, très récente. Disons que ça date de début 1900, quoi. Quand il y a eu les premiers tramways. Un tramway, on l'appelle aujourd'hui un tram, c'est un moyen de transport pour se déplacer dans la ville. Et en fait, souvent, il y a des places assises, mais il y a aussi des places debout dans ces trams. Et le problème, c'est que donc on s'arrête à chaque fois à un arrêt, et puis on redémarre. Et du coup, le fait de passer de l'arrêt au fait de se mouvoir, ça fait qu'à chaque fois, ton corps risque de tomber. Et du coup, on a inventé des barres auxquelles on peut se tenir. Vous les voyez, ces barres dans les métros et dans les trams?
Oui.
Ah oui.
On les connaît bien. Eh ben, c'est simplement ça. C'est pour ne pas tomber. Eh ben, on doit tenir la barre. Et voilà.
Excellent.
Félicitations.
Merci, Adeline.
Super clair.
C'est très, 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 très clair. Et Adeline, je peux te poser une question à un pro alors aussi?
Ouais, vas-y.
D'où vient le code barre pour toi?
Le code barre? Bah, il est sur les produits que tu veux acheter, tu veux le scanner. C'est pas ça la question, c'est pas ça la question?
Ben oui, mais c'est censé être plus humoristique que ça, mais c'est
ok,
pas,
autant
c'est
pour moi. Le code barre. Ben en fait, je peux pas trop te dire parce que c'est un truc qui vient de la zone 51 et du coup, quand j'y étais, on m'a dit, t'as pas le droit de le dire. Donc, okay, c'est j'ai bon. Signé des documents.
Tu connais les secrets, toi, bien sûr, Admin.
T'en as déjà trop dit.
J'ai peur que la CIA me court après.
Ok, et d'autres expressions ou pas, Adeline?
Écoute, a priori, c'était tout pour moi. Voilà, le petit jeu de début d'émission.
On pourra revenir. Hein. Oui, dis-moi.
Non, mais c'est tout. Je voulais dire merci de vous être prêté à ce jeu. Parce que je sais que l'impro, parfois, c'est un peu...
de rien, Adeline. Avec plaisir.
Et voilà.
Avec plaisir, Adeline. Et n'hésitez pas à intervenir dans l'émission avec vos jeux de mots également. Hashtag bonjour ça va sur Facebook, n'hésitez pas, on est là, on va recevoir vos témoignages et on réagira en direct évidemment. Alors Adeline, merci beaucoup pour ton petit jeu d'expression sur le mot barre.
Oh, merci.
Et on va directement passer à une musique qui a été aussi sélectionnée au hasard sous une recherche du mot barre qui s'appelle La Madelon. Chanson en barre. Adeline, c'est toi qui as trouvé cette musique. Est-ce que tu veux faire le lancement de la musique?
Ouais, alors j'ai pas grand-chose à en dire. C'est-à-dire que j'ai vraiment tapé barre dans un site internet qui vous permet d'écouter des musiques et de regarder des vidéos que je ne nommerai pas. Et
Dailymotion.
Non, pas celui-là, l'autre. Et du coup, voilà, j'ai tapé barre et il y a un groupe qui s'appelle, ou peut-être qu'il n'existe plus, mais qui s'est appelé Chanson en barre et qui a cette chanson qui s'appelle La Madelon. Du coup, bah voilà, je l'ai écouté une fois. Je vous propose de l'écouter tous en deux. Voilà. Coucou.
Hello.
Ça va?
François, toi, t'appuies pour couper ton micro, c'est ça? C'est quoi ta méthode?
J'appuie sur un raccourci clavier pour couper mon micro.
Peut-être, ouais, je crois que tu coupes trop tôt. En fait, on mange ta dernière syllabe généralement. Donc peut-être prends une seconde de plus avant de couper.
Okay. Ok.
Ouais, ça va?
Ouais, ça va et toi?
Ouais, ça va.
Super.
Cool.
Putain, c'est un peu bizarre comme exercice, mais
c'est chouette, hein. Ah, la prochaine fois, je reste chez moi, hein, franchement.
Et moi, franchement, le son est bon, hein.
Ah oui, tant mieux alors.
Et, l'intro, ça n'a pas lagué ni rien, on m'entendait et tout
ça. Ouais. Ouais. Marie
ouais, super, Marie tes présentations Adeline, et tout.
Mariam disait qu'avec Adeline, il y avait pas mal d'écho, mais franchement, ça allait.
Okay. Ah merde, on entend de l'écho quand c'est moi qui...
C'est François qui coupe pas son micro. Ah l'écho, il ne vient que parce que François coupe pas son micro. Okay.
Mais attends, mais tu rigoles ou quoi? Je suis hyper au taquet.
John Chat, je sais pas, François.
Mais attends, vous êtes sérieux? Je peux pas faire plus d'efforts que ça, quoi.
Quelqu'un entend quand c'est la fin de la musique ou pas?
Oui.
Ok.
Enfin, je vous dirai.
Mais moi, en vrai, moi, je trouvais ça pas si mal.
Coup, voilà. Il reste quand même.
Ah non, François, il est pas au taquet.
Il était chouette ton jeu, Adeline.
Ouais, cool. Franchement, ouais.
Ouais.
Tantôt, on a joué avec mes colocs, on a inventé plein de trucs aussi, mais c'est pas les meilleures expressions, celle avec barre dedans.
Ah oui. Pourquoi tu les ramènes, hein?
Il y a des gens qui écoutent, on me dit qu'il y a un peu d'écho, effectivement, ouais.
Ouais.
Mais bon.
C'est tout la faute à François, ça.
Ouais.
Allez, bien vous faire enculer. Merci beaucoup. Ciao.
Ah, François, ça polie, franchement.
Putain, mais les gars, je suis trop attaqué avec le bouton. Je sais pas faire autrement.
Et on fume pas dans le micro, on a dit. Hein. On fume pas dans le studio.
C'est à moi après, c'est ça. Hein.
Celui qui a allumé son micro.
François, c'est à qui après?
Ah, c'est moi qui fume.
Après, c'est Arnaud qui va nous parler. Il reste combien de temps, Arthur?
Il reste 40 secondes.
Ok, on repasse en direct alors ou
On peut, ouais. Il faut juste se mettre en muet.
Arnaud, il va pas parler de voyage, hein. Il parle de,
non,
de trucs
dit,
polynésiens.
Tenir la barre en Polynésie, Luce. Ça va?
Excellent.
La Madelon pour nous n'est pas célèbre. Quand on lui prend la taille ou le menton, elle rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon.
Et nous venons d'entendre Madelon, la Madelon, chanson en bar, proposée par un moteur de recherche musical au hasard avec le mot bar. On espère que ça vous a plu, évidemment. Et on va continuer cette émission avec l'interlude de Arnaud, qui va nous parler de tenir la barre en Polynésie, si c'est bien ça, Arnaud.
Ah ouais, c'est tenir la barre en Polynésie. Donc je me suis dit que pendant cette période de confinement, j'avais envie de vous faire voyager un peu, de naviguer loin de chez soi, en interprétant le mot barre avec la barre du gouvernail sur un navire. Donc là, je vais vous partager une histoire d'ethnocentrisme, de navigateur et d'explorateur en plein milieu du Pacifique, en Polynésie. Donc je vous invite à ouvrir vos cartes. Donc la Polynésie, ça peut pas se louper. Hein. C'est 1/5 de la surface du globe, des dizaines de milliers d'îles, avec ce qu'on appelle en fait le triangle polynésien. Donc si vous regardez sur une carte, je vous invite à vite aller sur Google Maps. Donc alors on a Hawaï au nord, la Nouvelle-Zélande qui est à l'ouest, l'île de Pâques qui est à l'est, et avec au milieu l'île Samoa et Tahiti. Donc, tout ça, ça vend du rêve, quoi. Et donc je vous emmène direct en 1520 avec Ferdinand Magellan. J'espère que je prononce bien. De toute façon, il est mort, c'est pas grave. Donc, c'est un navigateur portugais qui, lui, il désire être un des premiers navigateurs à faire le tour du monde et d'ouvrir une nouvelle route commerciale vers l'Asie depuis l'Amérique du Sud. Et donc, en fait, il va dépasser la pointe de l'Amérique du Sud, il va se diriger vers l'Est, vers l'océan Pacifique, et il va se trouver devant un océan vide et qu'il semble calme. Et donc, il va dire, je vais l'appeler le Pacifique. Ça, c'est pour le premier point culture. C'est là d'où ça vient. Après 4 mois de voyage, il traverse tout le Pacifique. La moitié de ses hommes sont morts, sûrement du corona. Et il débarque aux Philippines, donc tout à l'est, sans rencontrer aucune île. Et il n'y a donc rien sur cet océan, selon lui. Il faut attendre 75 ans plus tard, donc à un autre explorateur espagnol qui va s'essayer à la traversée du Pacifique. Lui, il va partir du Pérou et il va découvrir par hasard, au milieu du Pacifique, perdu au milieu de la brousse océanique, 10 îles qu'il va le surnommer les Marquises, en référence à son mécène. Donc, son mécène qui est un marquis et qui est aussi le vice-roi du Pérou. Ça, c'est pour le double point culture. Et alors, lui, perdu au milieu de l'océan, où il y a quand même, il y a 300 000 personnes qui vivent sur ces îles qu'on a nouvellement surnommées les Marquises. Et ça va être la première rencontre entre les Européens et la population polynésienne. Alors, évidemment, sans rentrer dans le mythe du bon sauvage ou en mode Pocahontas version pacifique, mais en fait, les Espagnols, ils vont débarquer sur ces îles, donc nommées les Marquises, et ils vont rien piger du tout. Et ils vont pas trop chercher à faire une analyse ethnographique. Ils sont juste un peu surpris ou scandalisés par ces sauvages en mode dépravation totale, où on a l'impression d'être dans une rêve partie. C'est la liberté sexuelle, des tatouages sur tout le corps, la drogue pendant le rite sorcier, des sacrifices humains, du cannibalisme. Et malgré ça, malgré un peu cet aspect sauvage, les Espagnols sont quand même surpris par ces marquisiens. Il y a des systèmes complexes d'irrigation, des infrastructures qui peuvent réunir des milliers de personnes, des stockages de nourriture assez incroyables, etc. Et d'autres infrastructures où ils sont dignes d'être adjugés dans l'équipe des civilisés. Ils pourraient l'être, quoi, mais ils restent totalement sauvages. Et en fait, le plus proche avant-poste des civilisés espagnols sur la côte, il est à plus de 3 mois et demi de bateau. Et alors, ils se posent la question et se disent, mais comment est-ce que ces indigènes totalement primitifs ont ramené ces infrastructures ingénieuses? Qui est-ce qui leur a appris ces techniques-là? Eux ne seront sûrement pas capables de faire ça eux-mêmes. Ils n'ont que de simples pirogues, ils n'ont aucune boussole magnétique, ils n'ont pas de sextant. Vous savez, sextant, c'est un instrument qui permet de s'orienter dans l'espace. Ouais. Vous savez, c'est quoi un sextant?
Oui.
Oui.
Voilà, et donc, il dit, c'est impossible. Donc, vous me suivez jusque-là?
Oui.
C'est un peu frustrant d'avoir aucune tête en face de soi, mais j'essaye de vous imaginer.
En vrai,
je suis en train de hocher de la tête là. Hein,
ok, ça va. Et donc, ils se disent c'est impossible que eux aient découvert ces infrastructures-là. Alors, un mois après, les Espagnols, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se barrer des Marquises. Ça, c'est le premier jeu de mots. Ils vont prendre la barre. C'est le deuxième jeu de mots. Et ils vont partir à la recherche de ce continent légendaire. Alors, le pauvre espagnol capitaine, là, il a beau y chercher toute sa vie, et c'était pas le seul, parce qu'il y a beaucoup de navigateurs européens qui ont cherché ces continents inconnus, et bien, il y avait que dalle, Wallou. Et alors, il faut savoir aussi que de base, les navires européens, ils restaient proches des côtes et ils s'aventuraient que très, très rarement vers les hautes mers, surtout évidemment les navires de commerce. Ils n'allaient pas dans les hautes mers, ils n'allaient pas prendre le risque de perdre toutes leurs marchandises. Donc, ils restaient sur leurs côtes. Mais parfois, ils tombent sur des flottes de pirogues de marchandises polynésiennes. Et les gars, ils deviennent fous de pas trouver ce continent ou d'autres îles. Et ils se disent, mais d'où viennent ces gars? Et la question qu'ils font, c'est comment est-ce qu'ils font pour comment est-ce que ces pirogues polynésiennes arrivent à se repérer? Et où est ce fameux continent légendaire au sud? Et alors, en fait, il a fallu attendre, du coup, quelques années, dizaines d'années plus tard, l'invention de la montre marine. Et en fait, la montre marine, ça va permettre d'améliorer le calcul et la précision de la longitude. Donc, la longitude, c'est la longueur. Donc voilà. Et ils vont aussi attendre James Cook, le grand navigateur britannique qui va s'intéresser surtout à ce mystère des déplacements polynésiens. Et donc, ils vont débarquer, James Cook, il va débarquer à Hawaï. Il est accueilli par une flotte de 3000 pirogues. Là, on est vraiment en mode Pocahontas. Je sais pas si vous avez vu le dessin animé, mais vous voyez l'image, quoi.
Ouais.
Alors, après Hawaï, il va aller à Tonga aussi. Et le gars, il est dégoûté, James Cook, parce qu'il se rend compte que les petits catamarans, qui sont pas si petits que ça, mais des indigènes primitifs, là, polynésiens, ils vont deux fois plus vite que le sien, quoi. Et alors, il rencontre des gars qui, eux, sont originaires des Marquises, en mode totale mondialisation, mais ils pichent pas le délire. Et il comprend, en fait, que eux, les gars des Marquises, ils comprenaient la langue des Tahitiens, alors qu'il y a 1600 kilomètres qui les séparaient des deux îles. Donc, il est totalement perdu, le gars. Et en 1769, lors de ses premiers voyages, James Cook il va faire la connaissance du gars qui s'appelle Tupaya. Vous connaissez Tupaya ?
Pas du tout.
Non.
Mais
on a envie de le rencontrer.
C'est un navigateur maori, donc c'est aujourd'hui une des personnes les plus importantes dans l'histoire de la Polynésie et surtout dans la Nouvelle-Zélande. Et en fait, je vais vous expliquer pourquoi. Et il y a James Cook qui rencontre ce gars Tupaya. J'ai regardé un peu sur Wikipédia, il sortait pas de nulle part. C'était quand même un noble qui avait des bons contacts, mais tout de même. Et James Cook, il va demander à Tupaya, il va dire, mais comment tu fais pour te retrouver sur ces îles en Polynésie? Et là, Tupaya, il ramasse des pierres, il va lui dessiner de mémoire la carte des principales îles polynésiennes en plaçant plus de 120 pierres. Il va poser 120 pierres. Et alors, chaque pierre représente une île qui parfois est séparée de plus de 4000 kilomètres. Et donc, c'est la largeur des États-Unis d'un côté à l'autre. Et ça, il va le faire de mémoire. Alors, James Cook, il est quand même impressionné. Il va dire, bah, écoute, viens avec moi de mon voyage. On va partir de Tahiti. On va aller jusqu'en Nouvelle-Zélande. Donc, c'est 13 000 kilomètres de traversée. Et on sait que Cook, il a écrit dans son journal que Tupaya, il avait aucun sextant, il avait aucune carte, et il a indiqué en détail les instructions de navigation pour aller de Tahiti à Samoa. Il dit donc, ouais, t'es à Tahiti, si tu veux aller à Samoa, tu vas là, puis tu tournes à droite, 3 kilomètres, enfin, un peu plus loin, puis alors les Fidji, là, tu vas au sud, puis après tu vas à gauche, Australie, tu vas vers le sud, Est, Marquise, le gars, easy, quoi. Alors, impressionné et aussi pris d'orgueil, de son orgueil européen de navigateur le plus connu, donc James Cook, il va jamais réussir à croire que ses voyages étaient menés de façon intentionnelle par des petites pirogues polynésiennes, quoi. Et malgré les faits, eh ben, le débat occidental sur la traversée des Polynésiens en pirogue, leur origine, d'où est-ce qu'ils viennent, comment ils ont réussi à s'implanter, il a quand même créé le débat dans la société occidentale pendant plus de 2 siècles. Aujourd'hui, avec toutes les recherches, on sait qu'il existait un seul domaine culturel polynésien avec des langues étroitement liées et une conception commune de l'histoire. Donc, ça veut dire qu'il y avait des échanges qui étaient répartis sur un océan qui correspondait au double de la largeur du Canada, donc quand même. Et donc, pour conclure, j'ai fait aussi quelques recherches Wikipédia et on se rend compte que les Polynésiens, ils ont démarré leur aventure maritime il y a 6000 ans en partant du sud-est et que, par exemple, les Marquises, ils étaient habités par les Polynésiens depuis 150 ans avant Jésus-Christ et que eux-mêmes venaient des Samoa qui étaient habités depuis 300 siècles avant Jésus-Christ. Et donc aussi 6000 ans avant Jésus-Christ, ben, nous, on apprenait à nager, quoi. Donc voilà pour l'histoire des navigateurs polynésiens.
Eh ben, excellent. J'ai appris des trucs.
Très bien. Ouais, c'est super intéressant. Ouais.
Merci Arnaud.
Bah, pas de souci. Merci à vous.
Est-ce que quelqu'un a une question pour Arnaud ?
Non.
Une petite remarque. C'est trop passionnant et je trouve que ça donne trop envie de lire des bouquins ou de se plonger dans de l'ethnographie et des trucs comme ça. C'est trop impressionnant. Et du coup, si quand même, en fait, une question. Et du coup, comment? On sait toujours pas c'est quoi le secret, quoi. C'était vraiment juste la mémoire qui faisait qu'ils savaient où ils allaient.
Ouais, en fait, c'est ils font aussi un peu l'analogie des savants grecs ou des savants de l'Antiquité qui n'avaient pas les instruments nécessaires que pour, par exemple, calculer les astres, mais qui arrivaient à le faire. Donc, par exemple, aussi la circonférence de la Terre, elle a été calculée déjà il y a pendant l'Antiquité, si je ne me trompe pas. Mais ils avaient des et c'est juste avec le savoir-faire, la curiosité humaine qui et après bon l'étude des astres, ils arrivaient à quand même se déplacer avec l'étude des astres, le vent, ils connaissaient bien la mer, donc voilà.
Ok, trop balèze.
Très bien.
Du coup.
Merci,
Ouais. Et ça met
Armand, c'était.
un coup à la prétention qu'ils entament quand même.
À fond,
tu m'étonnes.
C'était bien intéressant en tout cas. Ben on va
On
passer
apprend des choses dans cette
directement.
émission, en fait, hein. C'est
Ben
pas une
oui,
émission
hein,
juste de
ben.
divertissement. Parce qu'un jour on m'a dit, ouais, non mais tu verras cette émission, en fait, c'est on est là pour se divertir, mais en fait non, c'est une émission d'info avec beaucoup de contenu.
On apprend
Oui,
des trucs.
c'est vrai qu'il y a beaucoup de contenu.
Je sais pas qui t'a dit ça, Arthur, mais on en parlera après l'émission parce que ça va être
Mauvaise
chaud.
source.
Ok.
Ouais, en
Euh, merci Arnaud pour tenir la barre en
Yes, merci
Polynésie.
à vous d'avoir
C'était
accepté.
terrible. Et ben, on va passer directement à une interprétation d'Élise sur le mot bar, qui va nous donner quelques idées de voyage en ces temps de confinement. Ça va faire plaisir, je pense. Élise, c'est
C'est
à toi.
ça, c'est ça.
Alors attendez, petit détail. Élise,
Ouais,
est-ce que je
ouais.
lance le tapis maintenant ou plus tard?
Tu peux lancer quand je te dirai, allez, c'est parti.
C'est super.
Du coup, effectivement, comme Arnaud, je vais vous emmener un petit peu en voyage, parce qu'on s'approche doucement d'un mois de confinement quand même, ça commence à faire long, mais il faut tenir, hein. Certains n'en peuvent plus de vivre entre quatre murs et rêvent que d'évasion. On a envie de se barrer. Ça y est, je l'ai placé. Pour aller n'importe où.
Excellent.
J'ai
Bien
placé
joué.
pas mal de fois. Donc on a envie de se barrer pour aller n'importe où, surtout quand on voit le beau temps revenir. Donc déjà qu'on a tous eu des envies au moins une fois dans notre vie de tout balancer, de se barrer loin du quotidien et du train-train de la vie, là c'est vrai qu'on donnerait un peu tout pour retrouver ce même quotidien quand même. Donc je vais donc vous offrir un petit voyage sonore, au doux son de ma voix. Le temps d'une chronique, vous serez partis dans cinq destinations différentes. J'ai choisi des destinations où il y a assez peu de tourisme, des endroits reculés, un peu perdus, ce qui permettra une évasion un peu plus immédiate, puisque pour beaucoup, le confinement se vit seul. Donc allez, c'est parti. Petite ambiance, avec des petits oiseaux. Alors barrons-nous tout d'abord dans un endroit plus que frais, avec beaucoup de glace, de neige, puisque comme on n'en a pas eu à Bruxelles cette année, autant en chercher ailleurs. Donc barrons-nous en Antarctique. Lieu très peu touristique, vous ne croiserez pas grand monde comme aujourd'hui. Donc pour vous donner une idée, il n'y a que 44 367 touristes internationaux par an, ce qui fait 0,003 touristes au kilomètre carré, selon des données de 2018, donc c'est un lieu assez tranquille. Hein. L'Antarctique est
Et
un... Oui.
Élise, t'es toujours dans ta salle de bain là ou pas?
Je suis dans ma salle de bain, oui.
Ah
Ouais, ça
bon? Moi
c'est
j'ai l'impression qu'elle
de
est
la
dans une
maîtrise
forêt
technologique.
avec plein d'oiseaux autour d'elle.
C'est ça, ouais, j'ai amené des oiseaux, j'ai ouvert la fenêtre, ils sont venus du jardin. Donc du coup, on entend même une petite cascade qui coule. Donc l'Antarctique est un pays touristique que depuis 1957, ça fait assez peu. Donc ce serait l'occasion de jouer un peu à l'explorateur en parcourant ce territoire peu visité. Donc pour visualiser, ouvrez votre frigo pour avoir un peu de fraîcheur. Fermez les yeux. Imaginez-vous en train de plonger dans les fonds marins de l'Antarctique, parce qu'on va dire qu'on est tous des plongeurs hors pair. Hein. On va faire un petit coucou aux petits poissons et on va même construire un igloo pour y dormir la nuit. Maintenant, refermez ensuite votre frigo parce que c'est pas le moment d'attraper un rhume. Hein.
Et les
Alors,
pingouins?
oui, bah oui, tu vas croiser des pingouins, des manchots, des phoques, des otaries, je sais pas exactement ce qu'il y a là-bas, des ours polaires, mais il faut faire attention. Donc du coup, voilà. Barrons-nous ensuite dans un lieu un peu plus chaud, quand même, les îles Marshall. Cet archipel de Micronésie en Océanie est composé d'îles volcaniques et d'atolls coralliens totalement paradisiaques. On y trouve entre autres l'atoll de Bikini, qui a donné son nom au maillot de bain. Donc il y a très peu de touristes venant de l'étranger, seulement 6 000 par an. Fermez à nouveau les yeux. Imaginez-vous avec les pieds dans le sable chaud, un cocktail à la main, en train de faire bronzette sous un petit parasol. En face de vous, une étendue d'eau turquoise et le bruit des vagues qui vous endort. Le paradis, quoi. Et encore une fois, c'est un lieu où il fait bon de plonger pour visiter les fonds marins. Barrons-nous maintenant dans pleine nature. Nous sommes au nord du Brésil, au Suriname. C'est le plus petit pays d'Amérique. Très peu peuplé, la nature a repris ses droits et règne en maître. Ce territoire est recouvert de forêts amazoniennes et de réserves naturelles, de quoi se prendre pour un aventurier pendant vos promenades dans la jungle. Imaginez-vous entouré d'arbres qui vous dépassent de plusieurs mètres, à jouer les Indiana Jones. Il y a un peu de bruit, ce sont des animaux exotiques qui s'expriment, ils sont chez eux après tout. Avec un peu de chance, vous pourrez croiser Lara au plumage écarlate et bien d'autres perroquets. Et même qu'un peu plus loin, vous pouvez apercevoir des montagnes qui se dressent fièrement. Changeons un peu d'endroit et barrons-nous dans un endroit, dans un pays européen, où l'on peut partir en vadrouille à travers champs sans que personne ne nous dérange. Partons en Moldavie. C'est un pays un peu hors du temps, où la population est réputée pour être très généreuse et qui accueille à bras ouverts les touristes. Si ce qui vous manque dans le plus dans le confinement, c'est de visiter des monuments, la Moldavie serait une destination rêvée pour vous. Ce pays est recouvert d'églises orthodoxes et de monuments médiévaux qui n'attendent que vous. Pour vous imaginer en Moldavie, pensez donc à des églises, des monuments médiévaux, des champs et collines où on ne croise pas âmes qui vivent. Par exemple, envolez-vous à Soroka, donc c'est une ville du nord de la Moldavie. Vous y verrez une ville construite juste à côté d'un fleuve, une immense forteresse et énormément de verdure. Et enfin, pour terminer ce petit voyage, qui n'était que spirituel hélas, barrons-nous en Bolivie. C'est un pays avec de superbes paysages désertiques. Nous sommes au cœur de la cordillère des Andes, devant nous que du blanc. Le Salar du Uyuni, un immense désert de sel à plus de 3500 mètres d'altitude. C'est magnifique. Un sol blanc et craquelé à perte de vue. Lorsqu'il est sous l'eau, inondé par les pluies, ce désert se transforme en un miroir gigantesque. C'est le plus grand désert de sel de la planète. Il représente à lui seul un tiers des réserves de lithium exploitables au monde. Sa formation remonte à plus de 10 000 ans, quand l'étendue d'eau salée était une partie d'un lac préhistorique géant, le Lago Minchin. La Bolivie, c'est aussi le lac Titicaca, d'autres lacs multicolores, de la jungle, des vestiges incas, de la musique évidemment, et surtout un accueil très chaleureux. Et donc voilà, après ces 5 destinations, nous retournons chez nous en Belgique. Avec tout ça, on a encore plus envie de voyager, je sais. Moi-même, j'étais dégoûtée après avoir écrit cette chronique, je l'avoue. Mais il faut tenir. Bientôt, on pourra se barrer ailleurs. Mais pour que l'on puisse à nouveau partir en vacances, en voyage à l'étranger, ou tout simplement rien que pour revoir nos proches, il faut rester chez soi. C'est très important.
Tu nous as fait voyager dans ton interprétation.
C'est vrai.
Chouette.
Ah,
en vrai, on devrait t'appeler Ryanair tellement tu nous as fait voyager pour l'instant. Là.
Parle-moi à Bruxelles Airlines.
Ouais, c'est vrai.
Je vais me reconvertir là-dedans, en fait.
Merci beaucoup, Elise.
J'aurais dû faire mon petit kalimba là, pendant la...
Ah ouais, ça aurait bien été pour la musique, ouais.
Fais-le, je vais parler tourisme, moi.
Allez, vas-y, je vais essayer, ouais, alors. Ouais.
Mais attends, moi, quand même, je voulais poser une question à Elise.
Oui.
C'est lequel l'endroit qui te faisait le plus rêver
quand t'as écrit ça, très bonne question, mais je pense que c'était la Bolivie. Parce que quand j'ai regardé les photos et tout, le Suriname était vraiment pas mal aussi.
Ouais, sans blague, ça a l'air trop bien.
Je connaissais une personne moldave.
Arnaud, Arthur. Ouais,
c'est fou. Ouais. Genre, est-ce que vous connaissez Arthur des personnes qui sont de Moldavie?
Non.
Est-ce que vous avez déjà rencontré une personne qui vient de Moldavie?
Non, jamais.
Pour moi, ce pays n'existe pas. J'ai jamais rencontré quelqu'un. Je sais pas.
C'est fou. Il y a des pays comme ça où tu connais personne qui vient de ce pays-là.
C'est clair.
C'est vrai. Complètement. Arthur, est-ce que tu veux te lancer dans un truc voyage avec Arnaud qui fait de la flûte là à côté?
Mais j'aimerais bien. Ça fera le lien avec Élise, parce qu'on parle de tourisme et du coup.
Tout est lié.
Ambiance.
Vas-y, mais je vous en prie. Hein, donc,
ouais, mais tranquille. Fais 3 notes, de toute façon, Kalimba, ça passe partout.
C'est parti, Arnaud, fais-nous rêver. Arthur, décris-nous tout ça.
Eh bien, en attendant la Kalimba.
Excellent.
Ça a commencé, ok. J'attendais le temps de savoir. Comment, est-ce que c'est un Do, est-ce que c'est un La, est-ce que c'est un Fa?
Fais-nous un Do, La et un Fa. Vas-y.
Un Do, La et un Fa.
Voilà, super. Eh bien, cette chronique tourisme me fait penser à deux livres que je suis en train de lire en parallèle et qui parlent de tourisme, mais avec deux approches différentes. Le premier, ça s'appelle « Touriste », tout simplement, de Julien Blanc-Gras. On peut le trouver en édition poche. Et en fait, c'est un journaliste français qui a l'habitude de... En fait, qui a le goût pour le voyage, et donc il vous raconte un peu sa vie, et avec sa vie, il vous raconte son regard sur le fait d'être touriste et de l'assumer pleinement. Et un peu à l'opposé, j'ai envie de dire, il y a le tour du monde d'un sceptique de Aldous Huxley, qui se trouve en poche aussi, une autre époque, hein, puisqu'on parle du début 20e, je pense. C'est un peu un carnet de voyage. Il a parcouru voilà, les Indes, la Birmanie, la Malaisie, le Pacifique, tiens, et l'Amérique. Et en fait, c'est un peu son regard sur le monde et son regard d'un sceptique. Voilà, donc deux livres que je vous recommande fortement si vous ne pouvez pas voyager plus loin que 1 km ou votre petit quartier.
Ah ben, c'est excellent. Écoute, comment est-ce qu'on ne peut pas être déjà dans le voyage avec Arnaud qui joue cette musique splendide, tout simplement, et toi qui compte, magnifique. C'est magnifique. Merci, 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 merci. Merci Élise aussi pour...
Mais de rien, et vous, quel pays vous donnez plus envie?
Ben, la France, hein. Non, non, j'avoue que... Pas,
Moi, c'est la Moldavie, clairement.
Moi, le Canada, là, un peu. J'ai envie.
Alors, en fait, à la base, je parlais dans ma chronique, mais tu peux parler d'autres pays si tu veux.
Moi, okay, clairement, bah alors, dans...
Et sinon, le Canada, oui, moi aussi.
Moi, dans ta chronique, en fait, je suis déjà allée en Bolivie et c'était trop bien. Et du coup, ça me donnait trop envie d'y retourner. Mais cela dit, la Moldavie, tu l'as super bien vendue. Du coup, ça me parlait bien aussi. Donc, peut-être un de ces quatre.
Ah, la Moldavie, ça a l'air super bon.
Ouais. Voilà, voilà. Les autres, je sais pas trop.
Mais moi, le Canada, mais apparemment, c'est leur propos, du coup.
J'aurais pu le mettre dans ma chronique, mais c'était un peu trop évident.
Ok. Bon, ben, on va faire une pause musicale. Oh, que non. On va écouter un son qu'on a déjà tous entendu, je pense, hein, et qui est bien en lien avec le mot du mois. Cette chanson, je vous la donne en mille. C'est évidemment, Kenny Arcana, Je me barre, une chanson, hein, qui fait plaisir là où on l'entend, comme on dit. On revient juste après. Kenny Arcana, Je me barre. À tout de suite.
Yo, les gars, go. Je vais vite pisser, je reviens.
En bas, arrête de fumer, moi.
C'est la bière.
Arrête de boire.
Je vais faire pipi aussi.
Ça dure combien de temps, Arthur?
3 minutes.
Ok, ça va.
Deux minutes.
Ok, je suis de retour.
Deux minutes.
Ok, après c'est moi et après c'est Arthur.
Super.
Quoi?
On disait qu'il restait 1 minute 30 et après c'est la chronique de François et après c'est la mienne.
Finalement, je suis hyper triste. J'ai l'impression que mes colocs ils écoutent vraiment pas. C'est vraiment débile.
De quoi?
Bah, mes collègues ils sont en bas et ils écoutent même pas, c'est vraiment des nuls.
Alors, moi, effectivement. Clara, juste à côté, je suis en train d'écouter Kenny Arcana juste à côté. C'est ma première fan, hein. Elle et ma maman, c'était
un
bon
trop
fan.
Bien, t'as de la chance.
Il y a mes parents qui écoutent, il y a mes deux sœurs aussi, mon beau et même mon neveu de 4 ans qui m'a écouté.
Oui, bon, bah, c'est bien privé, là.
Voilà.
Madame, j'ai une famille, super.
Voilà.
Il reste combien de temps, Arthur?
Il reste 1 minute.
Ah, encore?
Ah. Ouais, le temps file pas plus vite. Hein,
c'est ma mère préférée, ma chanson précédente. C'est pas son goût.
C'est très bien d'avoir des retours directs comme ça.
Tu coupes encore un peu vite ton micro, François, je trouve, mais bon, c'est juste...
Désolé, je suis un peu au taquet à ce niveau-là, j'ai pas envie qu'il y ait de méga écho. Je fais attention, mais... Ah.
29 secondes.
Ok, j'y retourne.
Moi aussi, j'y vais. Ta-na-na-na, je me bats, le foyer, je me
bats. Tcha, le foyer, je me bats. Vous avez déjà vu son documentaire, comment il s'appelle, Un autre monde est possible, je pense.
Non.
Parce que je me rappelle avoir, dans mes souvenirs, d'avoir 15-16 ans et voir ce documentaire et totalement anticapitaliste.
Et tu te dis, putain, pourquoi j'ai pas été en foyer? Pourquoi j'ai pas eu cette vie là aussi où j'aurais pu me barrer?
Peut-être pas, mais. Okay. C'est un super documentaire.
Mais du coup, on a écouté Kinyar Kana, je me barre, une chanson qu'on kiffe bien, enfin en tout cas que je kiffe bien. Et on va passer directement à la chronique de François. François. Qui est une chronique d'improvisation, François, c'est ça ? Oui, tout à fait, François. Alors, petite improvisation dystopique. Le principe, c'est simple. Hein. Adeline l'avait fait lors de la première émission, rappelez-vous. Je vais vous conter le début d'une histoire que vous devrez reprendre chacun à tour de rôle.
Explique peut-être c'est quoi une dystopie.
Une dystopie, c'est l'inverse d'une utopie. C'est-à-dire qu'une utopie, c'est là où tout se passe bien. Une dystopie, c'est une projection où là où tout se passe malheureusement mal. Si vous avez vu 1984 ou V pour Vendetta ou je sais plus trop quoi.
Black Mirror
par exemple. Exactement. C'est
la sœur écarlate.
Exactement. Là, c'est de la projection de notre monde où tout se barre un petit peu en couille. Le principe, donc, il est simple. Je vais vous dire un prénom qui devra reprendre l'improvisation. Si je ne vous interromps pas, vous devez poursuivre votre improvisation. C'est aussi simple que ça. Du coup, okay. Je vais vous mettre dans l'ambiance et je peux le dire directement. Adeline, tu seras celle qui me reprendra. Du coup, quand je te dirai Adeline, tu feras « ouais » et t'iras, quoi, tu vois.
Ok.
C'est parti. Il est 3h du matin. Mon réveil sonne. Mes blessures de la veille sont encore douloureuses. Mon ventre est vide. Nous sommes le jeudi, je pense. Le jeudi 9 avril 2039. Je me passe un filet d'eau sur le visage et jette un coup d'œil par la fenêtre. Les files sont moins grandes devant le bar. C'est définitivement la meilleure heure pour aller à la rencontre de l'agent d'utilité. J'enfile mon veston et je descends silencieusement la grande cage d'escalier du bloc D. Le visage de Bruxelles avait complètement changé ces dernières années. On ne sait plus trop quand ni comment cela avait commencé, mais l'émergence des citoyens d'honneur avait réorganisé la ville en créant ces nouveaux bars, ce lieu où se procurer des packs de nourriture au péril de sa vie. Les bars ne sont plus ces lieux sociaux de rencontres et de partage que l'on a connus il y a quelques années. Cela me paraît loin maintenant. Ils sont devenus des arènes mêlant divertissement pour les puissants et mise à mort pour les autres. Ce fut l'avènement du grand jeu, comme ils l'appellent. Je m'approche en courant de cette file. Je suis 60e. Une bonne place. La nuit passe, la file diminue. Il est maintenant 6h du matin. Peu de gens sont sortis du bar. C'est enfin mon tour. J'inspire et j'expire profondément. J'entre dans le bar. Adeline ?
Ouais. All right. Beaucoup d'infos. Alors du coup, j'entre enfin dans le bar. Et il n'y a pas beaucoup de monde finalement dans ce bar. Alors du coup, je me demande par où sont repartis les autres. C'est vrai que je sais qu'il y a une arrière-salle où les gens parient la nourriture, les packs de nourriture qu'ils viennent de recevoir en espérant en recevoir encore plus. Certains le font parce qu'ils sont addicts, d'autres le font parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils doivent nourrir leur famille et le pack qu'on a voulu égal pour toutes les familles ne suffit pas parce que certaines familles sont simplement plus nombreuses et ont plus de besoins. Alors donc, je suppose que les autres sont repartis dans cette arrière-salle et je m'avance vers le bar de ce bar. Là où on va enfin me donner ma ration. Je m'avance et c'est un homme baraqué. C'est toujours le même, Fred, qui est là. Il ne sourit jamais, Fred. Il a toujours l'air fâché et distant. Comme si le fait d'avoir toutes ces rations faisait que les gens l'embêtaient un peu plus, le harcelaient, le sollicitaient. Alors du coup, il doit être distant des gens autour de lui. Mais Fred, je le connais bien. On était ensemble à l'école. Et c'est déjà lui qui gérait ce bar à l'époque. Enfin, pas à l'époque de l'école, mais il y a quelques années. À l'époque où c'est encore des bars festifs.
Alors Arnaud. Fred... Arnaud.
Alors Fred, si j'ai bien compris, c'est une personne assez importante pour moi parce qu'elle va me permettre la redistribution de la ration. De la ration dans ce bar. Et donc, je m'avance vers lui, je le connais assez bien et je lui demande un peu de m'expliquer tous les systèmes de un peu cachés de redistribution de nourriture. Il me dit que le système officiel veut que ce soit une portion assez minime par personne. Cependant, il m'explique un peu les vices cachés. Il m'explique que si on va dans le bar à côté, et si on descend dans la cave, on arrivera, il y a l'opulence de biens. Mais par contre, pour y rentrer, il faut répondre à une énigme. Et cette énigme reporte par rapport au passé.
Arthur ?
J'ai bientôt fini, François.
Oui.
Non, vas-y. Une énigme qui reporte par rapport au passé à l'année 2020. Si il découvre cette énigme de 2020, il pourra rentrer dans cette opulence et faire partie des 1%.
Alors, du coup, je suis là avec cette tentation de pouvoir obtenir une portion plus importante de ration, du coup. Mais voilà, il y a cette énigme. On me demande de détruire. Qui a un lien avec l'année 2020, hein, si j'ai bien compris. Mais en même temps, j'ai un peu beaucoup bu. Là, Fred a un peu forcé sur la boisson. Du coup, je suis plus sûr d'avoir bien compris ce qu'on m'a dit. Mais je me dis, j'y vais. Donc, je sors. Je sors subrepticement du bar parce que si les gens voient que je suis sorti sans ma ration, ils vont se douter de quelque chose. Vous savez, la délation, c'est monnaie courante aujourd'hui. Donc voilà, j'arrive à me faufiler comme ça en rampant vers la sortie. Là, je me mets debout et je vais justement au bar à côté, donc avec la petite porte en bois rouge. Et là, je toque à la porte et là, je vois qu'il y a une petite ouverture comme ça. Et je ne vois qu'un œil et qui me dit « Énigme ». Et là, je me dis «
Élise ?
Ah oui, ah oui ».
Alors, j'espère que l'énigme soit dite d'ici là. Donc du coup, il y a un œil, je vois un œil qui me dit « énigme ». Si jamais tu trouves cette énigme, tu pourras franchir cette porte et faire partie des 1% de la population à avoir l'entièreté des rations qu'il lui faut. Du coup, même si je suis un peu alcoolisée, je me dis « allez, je vais réussir à répondre à l'énigme, j'étais plutôt douée en ce genre-là ». Du coup, il me pose comme question « qu'est-ce qui a... retenu enfermé chez eux la population en 2020 pendant plusieurs mois. Alors du coup j'étais là à réfléchir, je me souvenais plus très bien. Était-ce que à cause de l'alcool ou est-ce parce que le gouvernement a peut-être fait quelque chose pour nous empêcher de nous souvenir de ce qui s'est passé.
Oui, 19 ans plus tard, c'est difficile. Hein,
c'est ça, 19 ans plus tard. En plus on sait pas quel âge il a le héros, donc ça se trouve il était à peine né. Et du coup, je suis là, mince, je vais pas réussir à trouver. Et du coup, me vient à l'esprit un virus, mais je me souviens plus de son nom. Du coup, je dis à cause d'un virus, et là, l'œil se referme et pas de réponse. La porte ne s'ouvre pas, et Fred revient me chercher en me disant, je crois que tu as échoué, donc tu vas faire partie des 99 autres de la population qui n'ont rien à manger.
Adeline ?
Je me dis non, c'est pas possible, je savais rien, attends, il y a un virus, comment ça s'appelait?
Comment ça s'appelait?
Ouais, comment ça s'appelle?
Quel suspense!
Ah oui, c'est intenable, hein, là. Comment il s'appelait?
Arnaud, on a perdu Adeline! Ça.
Arnaud, reprends-moi ça. Mais comment ça s'appelait, ce virus-là? Oh là là.
Et donc, l'énigme, elle reposait... moi aussi, je peux quitter comme Adeline ou pas?
Vas-y Arnaud, vas-y.
Et du coup, il arrive à la porte et l'énigme, comment ça s'appelait, il dit, voilà, j'ai la réponse, ça s'appelle Covid-19. Et alors, la personne la regarde, il fait, oui, mais c'est comme ça que notre société s'appelle, mais non, c'était pas du tout ça la réponse de l'énigme.
Ouh, joli ça.
Excellent. Par contre, l'énigme, c'est qu'est-ce que les personnes avaient chez elles qu'il n'y a plus aujourd'hui et qui permettait d'avoir une bonne répartition des rations. J'ai fini.
Ok.
C'est bon.
Oui. Alors, qu'est-ce que les gens avaient qui permettait la bonne répartition des rations? Eh bien, les gens avaient des mains. Et
Ça m'a pelé un peu loin là.
Parce que depuis le début, on n'a pas expliqué que les gens n'avaient pas de mains en fait.
Et donc, ah oui, c'est vrai qu'on a oublié ça.
Il faut le dire ça parce que les gens ne vont pas comprendre sinon. Et donc à l'époque, on avait des mains, ce qui nous permettait de compter. Et compter nous permettait de savoir si on avait bien donné toutes les portions à tout le monde. Alors avec même si on a juste 10 doigts, hein, si on compte que les doigts de la main, et bon, on peut arriver quand même à faire des calculs assez complexes qui peuvent comme ça nourrir toute une population en divisant un peu des milliards en millions, en milliers, en centaines, avec nos petits doigts.
Et du coup, le fait de ne plus avoir ses mains et ses doigts ne permet plus cette répartition parce qu'on ne peut plus calculer. Ok. Adeline, est-ce que tu es là?
Alors, je suis présente, mais j'ai loupé tout de « Oh là là, l'énigme, ça marche pas » à « Ah, on a des doigts, c'est pratique pour compter. » Donc,
est-ce que tu as encore perdu, quoi. 10 doigts?
J'ai 10 doigts, ouais.
Alors, Adeline, tu es encore bien présente.
En fait, le truc, c'est que Arthur nous a révélé le fait que le moyen de répartition qui n'est plus actuel en 2039 était permis à notre époque parce qu'on avait nos 10 doigts et qu'on pouvait calculer justement le montant de nourriture, la répartition.
Ouais, alors ça marche visiblement vraiment pas très bien. J'ai des problèmes de connexion. J'en suis désolée. Et du coup, je vous propose de continuer le jeu sans moi parce que j'entends pas bien tout. Désolée.
Ok, bah du coup, c'était oui.
Bah du coup, François, tu peux conclure?
La conclusion est simple. Une fois que je me suis rendu compte que mes 10 doigts n'étaient plus là, en fait, tout simplement, et que c'est ce qui nous poussait à la non-répartition, je suis revenu près de la porte, cette sacrée porte, hein, dans la cave du bar, et je leur ai dit, les doigts, c'est ça, c'est les doigts, en fait, qui permettent la répartition. Et l'homme m'a regardé et m'a fait, non, c'était pas les doigts non plus. Et du coup, je suis retourné, il était 19h, j'ai passé 10 heures à me questionner là-dessus. Je suis sorti, je suis retourné dans mon bloc. Je n'ai pas eu à manger aujourd'hui. Peut-être que demain, ira mieux.
Waouh.
En même temps, sans main, ils ne peuvent pas ouvrir la porte, de toute façon.
Oui, non, mais c'est des portes spéciales.
Avec la tête. Et la réponse était l'espoir.
Et la réponse était la solidarité.
Mais c'est dystopique ou pas, votre histoire?
Oui, c'est complètement dystopique. Merci d'avoir joué le jeu, même si Adeline a des petits problèmes de connexion et c'est pas très grave.
T'inquiète.
Mais merci d'avoir joué le jeu et on continuera cette histoire. N'oubliez pas, enfin, si vous avez des idées ou quoi, hashtag bonjour ça va sur Facebook et continuez à alimenter cette histoire. Est-ce que les gens vont le faire, tu penses ou pas?
Évidemment, de nombreux auditeurs.
Ok, ben merci François, ben merci à toi. C'est parti. Dernière chronique. Nous avons Arthur, évidemment. Arthur, ce bon vieux Arthur, qui va nous parler des barres asymétriques. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Arthur?
Le mot barre ou le mot asymétrique, lequel tu comprends pas?
Mais les deux ensemble, en fait. Séparément, ça va, mais les deux ensemble.
Eh bien, je t'explique. Quand on a choisi le mot barre, j'ai repensé à ce sport en fait que j'ai toujours trouvé assez étrange. Et donc, il s'agit de des barres asymétriques. Et mais avant ça, il faut que j'explique le contexte. On va replacer les barres asymétriques dans leur contexte. Et je vais avoir besoin de la collaboration. Savez-vous ce que c'est qu'un agrès ?
Un agrès ? Une agrégation, oui, mais un agrès.
Non, un agrès, c'est... je sais que c'est un truc en gym, mais je sais vraiment plus ce que c'est.
C'est ça. Il y a peut-être du bruit. C'est, il y a des gens moi, je sais pas du qui tout. Font du bruit partout, là. C'est super énervant.
Oui, c'est plein de types qui m'applaudissent. Je comprends pas trop. Merci. Merci beaucoup.
Ils nous applaudissent parce que c'est une super émission, tu vois.
Voilà.
Oh là là, je savais pas qu'on avait autant d'auditeurs.
Ils sont fous furieux. Et donc, effectivement, Adeline, tu as raison. Ça a un lien avec la gymnastique, en fait. Mais le premier lien, et là, c'est un lien, si je puis dire, avec la chronique d'Arnaud, puisque au départ, le terme agrès est lié à l'univers du navire, et par extension, ça désigne des équipements sportifs indispensables pour certaines disciplines comme la gymnastique. Et donc, en gymnastique artistique féminine, combien y a-t-il d'agrès ?
5.
Attends, mais... Ouais, je sais pas.
2.
Je ne sais pas, n'est pas une réponse.
3. 3.
4 alors.
Eh ben bravo, c'est 4. Tu vois, il fallait
allez.
Ah, François, il a encore gagné.
Mais pouvez-vous citer les 4 agrès qui composent la gymnastique
artistique? Ah, mais oui,
évidemment.
Si, en fait, je sais.
Les barres asymétriques.
La poutre.
Oui. La poutre.
Les barres parallèles.
Non, pas chez les femmes.
Ah, les c'est vrai.
Les anneaux.
Non, pas chez les femmes.
Le cheval.
Oui, saut de cheval.
Le cheval d'arceau, là.
Il en manque un, saut de cheval.
Et la gym à terre, là, c'est une espèce de carré...
Le step.
Le sol, ça s'appelle.
Le sol.
La barre d'Interville, non.
Non. Par contre, détail genré, chez les hommes, il y a 6 agrès.
Quoi ?
Oui.
Dont la barre parallèle.
Alors, ils ont la barre parallèle, ils ont la barre fixe, mais ils n'ont pas la barre asymétrique. Ça, c'est typiquement féminin, si je peux dire. Et c'est une discipline olympique depuis 1928 en discipline par équipe et en 1952 pour la discipline individuelle. Et donc, est-ce que ça vous inspire quelque chose, les barres asymétriques ? Est-ce que ça vous parle ?
Mon cauchemar au collège, oui.
Moi, je déteste ça. Ça me parle pas énormément.
Moi non plus, ça me parle pas trop.
Ok. Et Élise, donc toi, tu as fait de la barre asymétrique ?
Oui, au collège, en sport. On faisait quand même les barres parallèles pour les filles aussi, poutre et puis barre asymétrique. Et je détestais ça. Parce qu'on nous obligeait en fait à monter. Ben, en fait, t'as deux barres. C'est vrai que je l'explique, peut-être que tu vas expliquer.
Non, vas-y.
Mais t'as une barre et une autre barre au-dessus, un peu hauteur. Tu devais grimper sur la première barre, mettre tes mains sur la deuxième barre et essayer de faire une roulade. Mais moi, j'avais un espèce de vertige. Mais bon, la prof, rien à faire. Elle voulait tout prix que je le fasse. J'ai dit que je le faisais pas et elle m'a mis un zéro. Voilà.
Parce que voilà, c'est un peu...
Super, le collège.
C'est un peu compliqué, ces barres asymétriques. Alors déjà, effectivement, elles ne sont pas parallèles, elles ne sont pas symétriques. Et comme tu as bien dit, il y en a deux à différentes hauteurs. L'une est à 1,70 m du sol et la deuxième à 2,50 m. Elles mesurent toutes les deux 2,40 m de longueur pour un diamètre de 4 cm, sachant que ce diamètre a été diminué avec le temps pour faciliter la prise en main de ces barres. Et l'écart entre les deux barres est variable, entre 1,30 m et 1,80 m. Et pour que tout ça tienne bien en place, eh bien la structure est stabilisée par des câbles qui sont reliés au sol. Et comme tu l'as dit, Élise, on doit faire des figures de voltige, on peut même dire des figures de haute voltige.
Ouais.
C'est vraiment une des disciplines les plus difficiles, en tout cas en gymnastique artistique féminine. Ça fait travailler les bras, tout se joue au niveau de la force des bras, puisqu'on doit être soit en suspension, soit en appui. Mais ça demande aussi de la coordination et de la finesse pour parvenir à exploiter l'élasticité de ces barres. Et c'est souvent, si vous avez déjà vu cette discipline à la télé, quelque chose d'assez spectaculaire en fait. On donne d'ailleurs à ces figures des noms plutôt aériens comme le soleil, la lune. On parle de lâcher de barre, de sortie acrobatique. Et donc moi, mon interrogation face à ces barres asymétriques, ça a toujours... Enfin, elle s'est posée par rapport au mouvement, parce que je trouve ça à la fois élégant et très disgracieux, ce qui peut paraître paradoxal, mais c'est un peu comme si d'un côté, il y a le corps qui s'envole en tournant, mais de l'autre, il y a ce même corps qui rebondit littéralement sur la barre au niveau du ventre, qui se plie légèrement, ou le corps qui s'y enroule. Et en discutant de ça avec un ami hier, il me disait, et je le rejoins tout à fait, que ça lui fait penser à ces machines à pétrir la pâte. Je sais pas si vous voyez avec une barre comme ça courbée,
oui.
Ça malaxe la pâte.
Ah,
on
ne
sait
pas
trop comment ça s'enroule. On sait juste qu'au final, la pâte est prête pour la gourmandise. Et là, les barres asymétriques. On ne sait pas trop comment le corps s'adapte à ces manipulations qu'on lui fait subir, mais à la fin, il est tout droit, debout, et on l'applaudit. Paf, 10 sur 10. Mais, en fait, le 10 sur 10, non, ça n'arrive pas tous les jours, le 10 sur 10 aux agrès. Et pour les barres asymétriques, il aura fallu attendre 1976 aux Jeux Olympiques de Montréal, Canada, pour vivre cette scène. Alors, je vous replonge à cette époque. Souvenez-vous, la jeune Roumaine Nadia Comăneci, 14 ans et 8 mois, s'élance sur la piste. Elle a une frange, les cheveux longs ramenés en queue de cheval, un juste au corps blanc avec des lignes sur le côté aux couleurs de son pays, bleu, jaune, rouge, le numéro 73 dans le dos, et elle s'élance donc, et voici un extrait d'archives, ça dure juste 30 secondes, mais écoutez bien, c'est assez intéressant d'entendre juste le son.
To the judges that she's ready. The dismount, but what a performance. Coming at you in brilliant form. And 10, she's got another 10. The crowd ecstatic. That's three times she's achieved the perfect score. It makes one wonder where the judges go from here. Here is gymnastics moving on enormously since Munich. Where do the judges go now?
You don't. Voilà, on parle d'un 10 sur 10, c'était jusqu'alors pas prévu, et pour vous dire, l'informatique n'a pas suivi, puisqu'au niveau du tableau des notes, en fait les scores des juges ont été notés 1.00 au lieu de 10.0, et elle obtiendra 7 fois la note de 10 sur 10 durant ces Jeux Olympiques, et plusieurs médailles d'or, dont celle, bien sûr, aux barres asymétriques. Alors elle a marqué l'univers de la gymnastique artistique féminine avec une nouvelle figure, le Comăneci Salto. Alors ça consiste, donc faut bien visualiser, vous tenez la barre du haut, vous donnez de l'élan avec votre corps en pliant les jambes, et quand le corps est tendu à l'envers, donc les pieds en l'air et les mains toujours sur la barre haute, et bien c'est là où il s'agit de lâcher les mains pour effectuer un salto, donc un tour complet, en prenant bien soin d'écarter les jambes, sinon elles se fracassent contre la barre du haut, puis vous vous raccrochez à cette même barre avec les mains. Vous avez compris?
Oui.
Ouais, oui. T'expliques bien, dis. Hein.
Bravo. Et le dernier point, pour faire un lien avec les gymnastes d'aujourd'hui, aux derniers Jeux Olympiques en 2016 à Rio de Janeiro, c'est la Russe Aliya Mustafina qui a obtenu une médaille d'or, comme en 2012 à Londres d'ailleurs. Alors fera-t-elle un trio aux prochains Jeux Olympiques à Tokyo qui auront lieu? Quand ça, vous savez?
L'année prochaine, du coup, non? Bah, en fait, c'est reporté l'année prochaine, mais ça se passera peut-être pas à Tokyo, on sait pas, si?
En fait, je crois que ça se passe à Tokyo, mais effectivement, c'était prévu pour 2020 et ça a été reporté en 2021.
À l'été proche, enfin, d'après encore.
Oui. Et du côté de la Belgique, c'est la championne, si on veut, c'est Nina Derwel, qui a obtenu médaille d'or au championnat du monde en 2018 à Doha, et aussi médaille d'or en 2017 et 2018 au championnat européen. Et si vous voulez, j'ai une dernière question pour vous. Quelle est cette matière blanche que les gymnastes mettent sur leurs mains?
Pas de la magnésie?
Non, bah ouais, mais de la crème à l'escalade.
On me dit
de la farine
à gauche, on dit de la farine à droite, quelqu'un dit cocaïne.
Ouais, je sais pas.
C'est pas la magnésie, effectivement.
Ah oui.
Magnésie blanche. En fait,
J'ai pas entendu, moi, Arthur.
Alors, je répète juste pour toi. Quelle est cette matière blanche que les gymnastes mettent sur leurs mains?
Comment se dit ça? Du talc? Du calque? Je sais plus comment on appelle ça.
Ouais, le talc. Le talc, ça c'est du silicate. Ouais, mais c'est pas ça. C'est du silicate de magnésium doublement hydroxylé. Ce n'est pas ça. Mais c'est, comme l'a dit, je pense, Adeline, de la magnésie blanche. Et en fait, le terme est plutôt impropre. Parce que la magnésie, en chimie, c'est de l'oxyde de magnésium. Et là, c'est plutôt du carbonate de magnésium, MgCO3.
C'est rien à voir.
Rien à voir, mais on peut quand même l'accepter puisque dans le sens.
Ah ouais, rien à voir. Ouais, non, rien à voir. Ouais.
Ouais, enfin bon, quand même. C'est pas
de la France. François veut pas accepter, tu vois.
Et c'est un antitranspirant, ça.
Assez j'avoue. Sympa. Ok.
Ah voilà, j'ai tout donné, je suis fatigué.
Et il y a d'autres. Mais oui, mais très, très, très bien ça. Je regarderai les JO de façon différente maintenant. J'aurai un focus particulier. Et merci pour l'audio d'archive. C'est
toujours cool. On imaginait bien. Cool.
Je vous invite à regarder ces 30 secondes de performance. Enfin, elle l'a fait plusieurs fois parce que, bon, je vous passe les détails, mais les épreuves se font plusieurs fois. Et c'est assez impressionnant de voir un peu. En fait, c'est très difficile dans les agrès de faire un mouvement parfait. Et elle l'a enchaîné, et ce qui lui a donné ses 10.0 non-stop. Sa carrière n'a pas été très longue après, je crois qu'elle s'est un peu...
Est-ce que tu peux mettre en lien sur radiopanique.org?
Oui, je peux faire ça avec plaisir.
Magnifique.
Retrouvez toutes les vidéos sous le hashtag Bonjour ça va sur Facebook. Ce sera présent. N'hésitez pas à répondre, à intervenir dans l'émission. On se fera un plaisir de relayer tout ça.
Mais tu vas la créer, merci cette en page, tout cas. Du coup,
merci Arthur en tout cas pour cette découverte gymnastique.
Eh bien, merci pour ces applaudissements de Tari derrière.
Ouais, vraiment. Et puis voilà, ça touche tout doucement à sa fin. Il est 20h11, l'émission touche à sa fin. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Déjà de réécouter toutes les émissions qui ont eu lieu sur radiopanique.org. Vous pouvez les réécouter facilement sur l'internet.
Il me semble qu'on a encore une chose à faire avant l'émission prochaine.
Évidemment, comme le principe de l'émission le définit, on va maintenant, c'est l'heure, je pense, de retirer un mot au hasard qui sera le mot de l'émission prochaine, tout simplement. Du coup, le deuxième mois de mars, avril, mai. Mois de mai. Adeline, est-ce que tu nous fais ce tirage? Adeline, mets un petit peu de suspense, s'il te plaît.
Ah, mais justement, j'allais vous demander de me faire un petit roulement de tambour, s'il vous plaît.
D'accord.
Moi, j'ai une petite question, quand même.
Pardon.
Non, mais je me demandais si on allait être toujours à faire ces émissions chacun chez nous, le 14 mai, on ne sait pas.
On ne sait pas. Inch'Allah.
Ah. Alors, mon petit roulement de tambour, s'il vous plaît. Je lance la machine. Ok, stop. Le mot est courant, C-O-U-R-A-N-T.
Courant.
Excellent.
Ok.
Trop bien.
Qui a pensé à courant d'air directement?
Ah non, moi les courants d'eau, tu vois.
Ah oui, moi aussi courant marin.
Ouais, moi, voilà.
Ouais. On est encore dans les voyages là.
Ouais. Ok, ben on se retrouvera de toute façon dans un mois, le deuxième jeudi du mois. Ce sera toujours la même heure à 19h sur Radio Panique, 105.4 FM ou via le site radiopanique.org. Vous pouvez de toute façon écouter l'émission, votre émission préférée maintenant, on va pas se mentir. Bonjour, ça va? C'est une émission qui fait plaisir par là où on l'écoute. Et le prochain mot, ce sera évidemment le courant ou la courant, interprétez comme vous le voulez, de toute façon.
La courante.
Soyez présents de 19h à 20h, 20h30, on craque des fois un petit peu, là il est 20h13. Et voilà, c'était une émission originale, j'espère vous revoir très bientôt les louloustiques, parce que c'est quand même plus sympa quand on se voit.
Ça montre qu'on arrive toujours à s'adapter quand même.
Ouais.
Oui.
On sera toujours présent pour nos fidèles auditeurs.
Là, on finit même dans les temps, quoi.
Oui, pour une fois. En tout cas, merci à vous. Restez confinés jusqu'à nouvelle mesure, mais bon, c'est pas nous qui devons le dire. Hein. Et faites-vous plaisir. Et puis, n'hésitez pas à réécouter toutes les émissions, comme je dis, sur radiopanique.org. Bip, bap, boop. Un dernier mot de fin pour chacun. Adeline, s'il te plaît.
Coucou.
Excellent Adeline, merci Arnaud.
Ben quand même courage à toutes les personnes qui travaillent.
Allez Arthur,
c'est sur le terrain.
Trampoline.
Excellent trampoline, j'allais le dire mais c'est très bien. Élise.
Babouin.
Merci beaucoup, ça met du bon
moteur
à toutes les personnes qui
aussi,
sont
oui.
confinées. Bon, ben voilà, allez, bisous, et jingle de fin, comme on dit, à bientôt,
alors, oui.
à dans un mois.